Bonjour à vous.
En règle générale, pourquoi une expertise psychiatrique est demandée?
Alors ça peut être pour toutes les questions. Les juges en général ont le droit de demander un avis à un professionnel, à quelqu'un du métier. Pour le pénal, il y a trois grandes questions qui sont importantes. C'est: est-ce que l'intéressé ou le prévenu souffre d'un trouble psychique? Est-ce qu'il a été responsable de ses actes à cause de ce trouble psychique ou pas? Et est-ce qu'il y a un risque de récidive?
Donc ces trois questions qui doivent trouver réponse. Vous parliez du juge, c'est forcément un juge, le juge d'instruction, qui va demander une expertise psychiatrique d'un prévenu?
Alors c'est souvent le ministère public, les procureurs, en tout cas dans les affaires pénales, avant le procès, ça peut être après le procès aussi, quand il y a la question de la libération conditionnelle qui se pose par exemple.
Et puis concrètement, elle va se dérouler comment, cette expertise psychiatrique?
Alors d'abord, il faut trouver un expert. Il y en a de moins en moins parce que c'est assez exposé. Et une fois qu'il y a un expert qui a accepté, les personnes concernées ont le droit de dire bah non, il ne me convient pas. Il faut éliminer ce qu'on appelle des conflits d'intérêts. Par exemple, je ne peux pas expertiser quelqu'un que j'ai eu en thérapie, par exemple, ou quelqu'un de ma famille. Ce serait un conflit d'intérêts. Ou Joël, par exemple, je ne pourrais pas l'expertiser.
Je vais essayer de ne pas faire de pas commettre de délit.
Il y aura un autre expert. Et ensuite, après, on rencontre les personnes. En fait, c'est vraiment ça, l'expertise. Hein. Ça se passe sur la rencontre. On fait des différents, un examen psychiatrique, en fait, différentes rencontres. En général, c'est 2, 3, parfois 4. Et on étudie aussi tout le dossier.
Vous dites qu'il y en a de moins en moins. Ça veut dire que cette expertise psychiatrique, elle est quand même assez particulière. Elle demande un engagement différent aussi de la part de l'expert.
Alors, il y a de plus en plus de demandes d'expertise. Il y a de moins en moins d'experts. En fait, oui, ça demande un engagement particulier parce que ça devient de plus en plus un métier. D'ailleurs, en Suisse, il y a deux types d'experts. Il y a les experts qui font partie de groupes, des services qui font que des expertises, donc hautement professionnalisés, et d'autres qui, comme moi par exemple, qui font beaucoup de psychothérapie et à qui on donne un mandat. L'important pour l'expert, c'est d'être impartial, d'être indépendant. Mais c'est de plus en plus professionnalisé, ça devient très complexe parce que les expertises doivent être solides et elles doivent démontrer justement la question de la récidive. Or, c'est une question qui est uniquement statistique, qui est probabiliste.
Alors, vous le disiez, il y a plusieurs rencontres qui vont avoir lieu avec le prévenu. Et puis, l'expert a des infos sur les raisons qui ont amené à sa détention. On ne va pas rencontrer le prévenu de but en blanc pour essayer de voir si un problème psychique l'a rendu responsable ou pas de ses actes, le rend responsable ou pas. Mais on a déjà des infos sur qu'est-ce qui a amené cette personne dans la justice.
Alors oui, en général, on a le dossier très complet. Les magistrats sont très généreux et donnent accès vraiment à l'entier du dossier. Après, ça dépend de la taille du dossier, évidemment. Quand c'est quelqu'un qui a fait un braquage une première fois et voilà, qui n'est pas connu de la justice, le dossier ne sera pas forcément épais. Quand c'est quelqu'un qui est un multirécidiviste et qui a déjà eu 3 expertises, le dossier est épais, donc c'est assez long à lire.
Le but, c'est quoi? Déjà, vous devez poser beaucoup de questions. Ça prend beaucoup de temps.
Alors, en fait, il y a plusieurs parties dans une expertise. Je dirais qu'il y en a trois grandes. Et la première partie, c'est déjà de rencontrer la personne et de faire un peu avec lui le récit de son parcours. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est la perception, la narration que la personne fait de sa vie, quoi. Et ensuite,
parfois il se ferme, hein, j'imagine, dans un cas comme ça aussi. C'est ça qui est peut-être la première difficulté.
Oui, c'est rare. C'est vraiment rare que les gens veulent pas raconter leur parcours parce que justement, ça permet de sortir de l'acte. Et en fait, l'expertise a déjà cette première mission, c'est d'humaniser un peu la rencontre. C'est-à-dire qu'on se focalise pas sur l'acte qui est reproché, mais on s'intéresse au parcours avec les difficultés que les gens auraient pu rencontrer. Il faut aussi savoir qu'avant le procès, les gens, quand ils sont en détention, ils n'ont pas beaucoup de monde à qui parler. Donc l'expert arrive un peu en terrain conquis, parce que les gens sont vraiment contents d'avoir quelqu'un à qui parler.
Ça veut dire que cette expertise psychiatrique, elle va ressembler à une psychothérapie, ou alors ça va être complètement différent, ou effectivement ça peut déjà apporter à de l'aide?
Alors le but, c'est clairement différent dans le sens où l'expert, il va être impartial. Il va pas être du côté du patient alors que le thérapeute, il est du côté du patient. Le but, c'est pas non plus de soigner. Le but, c'est de comprendre. C'est-à-dire que là, il y a une vraie différence quand l'expert va poser un diagnostic. Dans le cas d'une expertise, ça va être pour estimer un risque de probabilité par rapport à une population connue, alors que dans la psychothérapie, c'est un projet de soin et c'est un projet qu'on fait avec la personne. Donc ça, c'est très, très différent. Et là, il y a une autre partie dans l'expertise qui est très importante, c'est la manière dont la personne va parler de l'acte, si elle le reconnaît ou pas, si elle se sent responsable ou pas, si elle se sent coupable, si elle est triste, si elle a des remords, si elle a de l'empathie pour la victime, etc. Et ça, c'est important, cette partie aussi, pour voir la perception que la personne a de l'acte. Et enfin, une troisième partie qui est de plus en plus importante, c'est une série de grilles et d'échelles qui font que l'expertise repose aussi sur des statistiques et sur des questionnaires. Et ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, l'expertise ne peut pas se permettre d'être juste subjective. Or, en psychiatrie, on est très subjectif. Et donc, il faut ramener ça à des mesures, je dirais, à des mesures statistiques qui ont aussi leurs limites, hein, très certainement, mais qui montrent en tout cas une meilleure dimension d'estimation des risques.
Charles-Édouard Rangade, vous nous l'avez dit tout à l'heure, une expertise psychiatrique, ça va être une rencontre avec un prévenu qui va se dérouler sur 3, 4, 5 fois. L'expertise psychiatrique, après, elle aboutit chez le juge qui l'a demandé. Elle va avoir quel poids, cette expertise ?
Ben, c'est de plus en plus lourd, en fait, comme poids, parce que quand on regarde un petit peu si les juges suivent les recommandations d'expertise, dans 99% des cas, eh ben oui, ça, les juges les suivent, et c'est très rare qu'ils s'en écartent.
Elle va influencer la peine, orienter vers des soins plutôt que vers un emprisonnement. C'est ce genre de poids qu'elle va avoir, hein.
Alors, elle n'influencera pas la peine, sauf sur la question de la responsabilité. Donc, évidemment, si les gens ne sont pas responsables, ben, la peine est moins importante. Mais le vrai intérêt de l'expertise, c'est de savoir si les gens ont besoin de soins et qu'avec ces soins, ils ne vont pas recommencer de délinquance, de difficultés comme ça. Et c'est ça qui est important, parce qu'au fond, on s'aperçoit malheureusement aussi que les gens qui sont en prison ont souvent besoin de suivi psychiatrique. Alors ça dépend des études, mais ça oscille entre 20 à 50% des personnes qui sont en prison qui nécessitent un suivi psychiatrique.
Puis vous nous l'avez dit tout à l'heure, il y a de moins en moins de psychiatres qui acceptent d'officier comme expert pour les tribunaux. Dans beaucoup d'affaires qui ont fait la une des médias, le rôle de l'expert psychiatre, il est très commenté. Le fait que ce travail y soit médiatisé, c'est quelque chose qui a un rôle sur le déroulement de l'expertise, sur le fait qu'il y ait de moins en moins d'experts.
Alors moi j'ai de la chance, comme on m'entend tout le temps à la radio, on me pose déjà une question sur l'expertise. j'ai jamais été sollicité dans le cadre d'une expertise et je refuserais de toute façon, parce qu'en fait on est soumis au secret de fonction. Pour être très honnête, ce que les experts redoutent plus, c'est quand ils doivent aller défendre l'expertise en audience, devant le tribunal. En général, le tribunal est bienveillant, mais le but c'est quand même un peu d'aller chercher la petite bête et d'aller casser ou pas l'expertise. Mais on est mis un peu sur la sellette, hein. Alors que les journalistes, on le sait, ils sont toujours bienveillants et gentils.
Bien sûr. Il y a des limites, hein, de l'expertise psychiatrique. Par exemple, si on se retrouve face à un psychopathe ou à un manipulateur.
La limite de l'expertise psychiatrique, c'est le poids qu'on lui donne, en fait. Et c'est ça le problème, un petit peu, parce que les psychiatres, bah, vous le savez, ils ont un avis sur tout. Et à un moment, il faut arrêter. Il y a des choses qui ne sont pas psychiatriques. Il y a des gens qui commettent des délits et qui n'ont aucun problème psychiatrique, qui sont bien responsables de leurs actes. Et la difficulté, c'est ça, en fait. C'est de dire que tout n'est pas pathologique. Et de ne pas tomber un petit peu comme dans ce que disait Knock, que tout être bien portant est un malade qui s'ignore. Hein.
Est-ce qu'il peut y avoir aussi le fait que cette expertise va être déterminante? Le juge peut s'appuyer sur cette expertise, finalement se décharger de sa propre responsabilité sur l'expertise du médecin?
Pas vraiment, parce qu'en fait le juge il est souverain, c'est lui qui décide, expertise ou pas expertise. Après il faut qu'il puisse justifier sa décision, et l'expertise est là pour éclairer, pour donner un éclairage, mais c'est pas ce qui détermine les faits ou le jugement, heureusement. Et d'ailleurs c'est aussi ça, il faut pas que les experts deviennent eux-mêmes juges, et tout l'enjeu de l'expertise, ça va justement d'être le plus neutre possible, le plus nuancé possible. Et on travaille beaucoup dans l'écrit, cette nuance, pour donner une vision la plus complète possible de la personne qui, de toute façon, ne se retrouvera pas dans l'expertise, puisque l'expertise, c'est une photographie. Encore une différence avec la psychothérapie, hein, où la psychothérapie, on crée un film, une longue histoire avec un patient, alors que l'expertise, c'est vraiment une photo à un instant. Donc, de toute façon, ça ne représente pas la personne, ça représente la personne à un moment donné, très précis.
Est-ce que réaliser des expertises psychiatriques dans le domaine pénal, ça signifie aussi accepter de porter un certain poids sur ses épaules, un poids qui n'est pas le même quand on est en psychothérapie avec un médecin?
Alors, par rapport à la psychothérapie, je dirais pas que le poids est différent dans le sens où il faut s'impliquer avec ses tripes. Dans le cas de l'expertise, il faut justement essayer de voir la personne qui est parfois cachée derrière un acte. Il y a des actes qui sont immondes, hein, et si on se laisse comme ça complètement figé, sidéré, on n'arrive plus à penser la personne. Je pense par exemple à la pédophilie ou certains meurtres. Enfin, quelqu'un qui tue ses parents, c'est vraiment compliqué. On peut ne plus arriver à penser et être un peu pétrifié comme un oiseau dans un phare. Alors que derrière, il y a une personne, une trajectoire, et c'est ça le travail de l'expert, sans doute.
Les liens entre justice et psychiatrie, ils sont définis précisément. Vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, mais j'imagine que la limite est très définie.
Alors, elle n'est pas si nette que ça, et on voit dans l'histoire des moments où la psychiatrie est très répressive, et à d'autres moments, au contraire, elle est beaucoup plus orientée vers le soin, et la loi aussi. Vous évoquez la question de la psychopathie, typiquement, c'est vraiment un trouble de la personnalité qui est un peu à la charnière du social, du politique, du psychiatrique. Parce que ben voilà, ça évolue dans le temps, les troubles psychiques aussi évoluent dans le milieu, et puis l'expert a aussi son regard dans le contexte où il fait l'expertise. C'est pas pareil de faire une expertise dans le cabinet avec quelqu'un qui est en liberté, de la faire en prison où la personne est enfermée et elle a qu'une heure de promenade par jour. C'est pas du tout le même contexte. Donc il y a aussi un biais d'évaluation dont il faut tenir compte.
En deux mots, docteur Rangade, une expertise qui vous a particulièrement marqué. En deux mots, c'est difficile.
Il y a plein de petites anecdotes. Je vous en raconte une que je trouve amusante comme ça. C'était un monsieur qui me disait « Ah là là, vous êtes psychiatre, je vais surtout rien vous dire parce que vous allez tout analyser. » Je lui ai dit « En fait, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous ne dites pas. » Et du coup, il a été très prolixe.
Les expertises psychiatriques dans le domaine pénal, c'est le sujet qu'on abordait avec vous ce matin. Merci beaucoup, docteur Rangade, d'avoir passé ces quelques instants avec nous.
Merci à vous.